Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
8h, toute l'actualité, c'est avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et l'actualité de ce lundi, ce sont ces masques qui ne nous quittent plus.
Masque obligatoire dans tous les lieux publics clos à partir d'aujourd'hui. Ne pas le porter, ça peut coûter cher, 135 euros d'amende. Mais le porter, ça coûte cher aussi, on fait les comptes dans ce journal. À suivre également l'enquête sur l'incendie de la cathédrale de Nantes. Le suspect en garde à vue a été relâché sans poursuite. Et puis la guerre des nerfs à Bruxelles, toujours pas d'accord sur le plan de relance économique. Nous sommes le 20 juillet et le 20 juillet sur la Côte d'Azur. Normalement, c'est 11 millions de touristes, 70 millions de nuits d'hôtel ou autres. Le monde entier s'invite sur la Riviera. Mais cette année, le monde entier reste chez lui. Covid oblige. Alors l'été ressemble un peu à un printemps frisqué. Personne ou presque dans les commerces. Les professionnels du tourisme se désolent. Vous l'avez vérifié, Morad Djabari, dans le plus grand camping des Alpes-Maritimes, le camping de la Bergerie à Vence.
Oui, c'est bien la première fois en plein mois de juillet que le chant des cigales couvre les cris, les plongeons des enfants dans la piscine, avec à peine 80 familles pour 450 emplacements. Josiane a ouvert son camping cet été pour faire, comme elle le dit, plaisir aux habitués.
On n'est qu'à 15% de taux de remplissage. On a une fréquentation qui est celle de fin avril. Même si les dernières années, suite aux attentats de Nice, on avait eu une baisse de fréquentation à ce niveau-là, ouais, c'est du jamais vu. C'est une très mauvaise saison, on sait d'ores et déjà que le bilan de fin d'année sera négatif.
Vous travaillez en sachant que vous allez perdre de l'argent.
Exactement. De toutes les façons, ne pas travailler, c'était aussi une perte.
Parce que les charges fixes, elles sont toujours là. En temps normal, le camping a l'accent anglais, belge, allemand, hollandais. Il représente l'été 70% de la clientèle habituelle. Marie-Vonne, Francis, Dominique, des habitués ont rarement vu leur camping aussi désert.
Ça surprend un peu.
Ah ouais, c'est même un peu désolant quand même, pas voir personne comme ça. C'est une année spéciale quand même. Tous ces emplacements qui sont à côté, ici, il n'y a personne.
Parce que les étrangers sont pas là ?
Ah non, les Hollandais sont pas là. Non.
C'est le corona. Hein. C'est le corona. Les gens ont peur sûrement de descendre, de venir. Et en plus, comme les frontières ont été ouvertes il n'y a pas si longtemps que ça non plus.
Et un mois d'août et une arrière-saison exceptionnelle permettraient au camping de ne faire qu'une saison blanche.
Morad Djabari au camping de la Bergerie à Vence pour RTL.
Un été sans touristes, Isabelle, et un été masqué.
Ah oui, cette fois, on n'y coupera plus. À partir d'aujourd'hui, le masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos, notamment les commerces et les administrations. Faute de quoi, vous devrez payer une amende de 135 euros, 1500 euros en cas de récidive dans les 15 jours, et cela peut même aller jusqu'à 6 mois de prison si vous cumulez 3 manquements en un mois. En première ligne, les commerçants qui vont devoir faire respecter la règle. Exemple ici à Caen, avec vous, Julien Caillard.
Oui, dans cette supérette, elle a la réglementation est désormais bien visible.
Des affiches un peu partout. Attention, lundi, masque obligatoire.
Ces affiches, Christiane, la caissière, les a elle-même confectionnées.
Je trouve que c'est normal que tout le monde ait le masque. C'est une bonne chose. Il y en a qui prennent la mesure que le virus est toujours là. Et puis d'autres, je pense qu'ils se sentent pas concernés. Et puis certains ont le masque, mais soit dans le sac à main, soit dans la voiture.
Une réalité surprenante, mais facilement vérifiable.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous n'avez pas de masque ?
Non, dans la poche.
Pourquoi dans la poche ?
Pas le réflexe. Il y a beaucoup d'incohérences dans les discours, donc fallait pas être masqué en pleine crise. Et puis aujourd'hui, on se remasque, donc effectivement, c'est pas facile de s'y retrouver.
Au moins désormais, la règle est claire, ce qui ne rassure pas pour autant les salariés du magasin.
On va faire la police quand même.
Si les clients se montrent pas très coopératifs, ça va être plutôt compliqué. Ça m'inquiète pour certaines de mes collègues d'avoir affaire aux clients qui seront de mauvaise humeur.
Ça va arriver, ça ?
Forcément. Forcément.
Ici, pas d'agent de sécurité, le magasin n'en a pas les moyens. Les prochains jours s'annoncent difficiles.
Reportage RTL de Julien Caillard à Caen. Alors, il y a toujours des réticents, hein, et ce n'est pas une excuse, mais il faut dire quand même que ce masque obligatoire, eh bien, c'est un sacré budget, Odile Pouget.
Ah oui, prenons l'exemple d'une famille de 4 personnes avec 2 enfants de plus de 11 ans. C'est l'âge obligatoire pour porter ce masque. Si l'on choisit un modèle en tissu qu'on trouve dans le commerce à environ 3 euros, lavable une dizaine de fois, eh bien, il en faut 2 par semaine pour chacun des membres de la famille, donc 32 par mois. On sort la calculette, c'est le Parisien qui l'a fait ce matin. La note se monte à 96 euros. Beaucoup plus onéreux, les masques chirurgicaux à usage unique, dont le prix à l'unité est de 95 centimes maximum. Tarif encadré jusqu'au 10 janvier prochain par arrêté du gouvernement. Il en faut 2 par jour, donc 240 par mois, ce qui aboutit à la petite somme rondelette de 228 euros. Un budget qui risque de peser également sur les entreprises, pour celles qui ont décidé de distribuer gratuitement des
des masques à leurs employés.
Merci Odile Pouget. À Nantes, le mystère demeure après l'incendie de la cathédrale. Le suspect qui avait été placé en garde à vue ce week-end a finalement été relâché hier soir. C'est un bénévole du diocèse. C'est lui qui avait fermé l'édifice vendredi, mais il a été mis hors de cause. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
Du coup, toutes les pistes sont à nouveau sur la table.
Exactement, la piste criminelle, puisque les enquêteurs ne s'expliquent toujours pas ces trois foyers de départ de feu et le fait qu'il n'y a aucune trace d'effraction, mais aussi la piste accidentelle. Pour appuyer les enquêteurs de la PJ nantaise, des techniciens du laboratoire central de la préfecture de Paris ont été envoyés sur place dès samedi, les mêmes qui ont travaillé sur l'incendie de Notre-Dame. Les premières analyses n'ont apparemment pas mis en avant de traces d'hydrocarbures au niveau des deux foyers situés au sol de la cathédrale. Le feu pourrait donc être d'une autre origine électrique, par exemple. L'autre inconnu, c'est le grand orgue installé en hauteur. C'est là que se situe le troisième foyer et peut-être la clé de cette enquête. Le problème, c'est que la structure carbonisée n'est pas encore sécurisée et donc aucun technicien n'a pour le moment pu y faire de prélèvement.
Merci Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL. Et notez que Ségolène Royal épingle Roselyne Bachelot qui s'est rendue à Nantes juste après l'incendie. Une photo de la ministre de la Culture a circulé près de son hublot, téléphone en main. Elle aurait pris un hélicoptère Puma de l'armée de l'air pour rallier Lille à Nantes. Bonjour, le bilan carbone, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. C'est le petit tacle de Ségolène Royal sur Twitter.
Et la réponse est ce matin sur RTL puisque Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, est notre invitée maintenant dans 10 minutes en direct. Soyez au rendez-vous bien sûr.
À Grenoble, une plainte pour escroquerie aggravée a été déposée contre ce chirurgien du dos accusé d'avoir multiplié les opérations ratées. C'est une information RTL. La famille d'un retraité décédé après une intervention estime en effet que le médecin pratiquait des opérations non justifiées et qu'il facturait également des actes jamais réalisés. C'était les conclusions d'une enquête initiale de la Sécu de l'Isère.
À Bruxelles, Isabelle, toujours pas de fumée blanche. On en est même très très loin.
Oui, les 27 tentent de trouver un accord sur le plan de relance de l'Union européenne. Plan qui prévoyait à la base 250 milliards d'euros de prêts et 500 milliards de subventions. Alors les subventions, les bénéficiaires n'auraient pas à les rembourser et c'est ce qui rebute les pays dits frugaux, c'est-à-dire les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Danemark. Le sommet entre aujourd'hui dans sa quatrième journée. C'est une guerre d'usure. Et si ça continue, Lionel Gendron, ça va ressembler à la guerre de 100 ans.
Oui, et en tout cas, c'est un sommet en passe de devenir le plus long. Le record pour l'instant, c'est à Nice en 2000. 4 jours et 4 nuits, très peu de pauses. L'enjeu alors, l'élargissement de l'Union à l'Europe de l'Est. À Bruxelles, les 27 ont bouclé leur troisième nuit à 6 heures ce matin. Des pistes, des propositions, mais toujours pas d'accord. Angela Merkel et Emmanuel Macron sont à minima agacés. Le président français a même eu un échange tendu avec Sébastien Kurz, reprochant à son homologue autrichien de ne pas écouter, de préférer répondre au téléphone. Ce dernier se serait senti, je cite, offensé. Cet échange en dit beaucoup sur l'état de nervosité des dirigeants européens. Emmanuel Macron aurait menacé de partir, soutenu, nous dit-on, par la chancelière allemande. Reprise des discussions à 16h, mais les téléphones vont sans doute sonner avant. Charles Michel, le président du Conseil, voulait voir les journaux titrés ce matin sur la signature d'un accord historique. Ce sera pour demain, peut-être.
On verra donc. Merci Lionel Gendron.
Et puis l'histoire du jour.
C'est l'histoire d'un rappeur qui voulait être président des États-Unis. Ce rappeur, c'est Kanye West, bien sûr. Le chanteur a tenu son premier meeting de campagne hier soir en Caroline du Sud, mais on ne peut pas dire que ce soit un grand succès. On y a vu cet ex-caïd vêtu d'un gilet pare-balles. Il tenait des propos assez désordonnés. Et puis tout à coup...
My mom saved my life.
Pas comme ça Stéphane, oui, c'est Kanye West qui est en train de se mettre à pleurer au beau milieu d'une diatribe pro-avortement, il fond en larmes. J'aime autant vous dire qu'il se fait sérieusement vanner depuis sur les réseaux sociaux. Précisons tout de même qu'il souffre de troubles bipolaires.
Voilà, diatribe anti-avortement de Kanye West qui fait bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.